Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance de la bénédiction, l'importance de bénir les uns les autres. Nous arrivons à l'étude numéro 4. Quand la parole crée. Dans la tradition chrétienne, la bénédiction s'accompagne toujours d'une parole, c'est-à-dire dire du bien, parler en bien de l'autre. Les paroles prononcées lors d'une bénédiction doivent donc être bien choisies. Les formulations toutes faites sont nombreuses et adaptées aux circonstances. Elles recèlent souvent une grande force. Il est donc bien d'utiliser ces formules pour bénir. Et pourtant, il est parfois nécessaire d'employer des mots personnels, surtout lorsque nous bénissons quelqu'un dans une situation particulière. La parole crée donc ainsi une relation à l'autre. Par mes paroles de bénédiction, j'exprime à cette personne ce que Dieu peut lui offrir, la manière dont il la voit et ce qu'elle représente pour lui. Bénir dépasse donc la prière d'intercession, c'est affirmer. Affirmer, tu es aimé de Dieu. Tu es précieux pour lui et comment? Chez Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple et ses paroles valent pour chaque être que nous bénissons en ces termes. Parce que tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel, que tu as de la valeur et que moi je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Les paroles de bénédiction font du bien à l'âme. Elles doivent repousser les paroles blessantes entendues tout au long de la vie. Si je choisis bien mes mots, eh bien la personne que je bénis n'aura pas l'idée qu'il puisse y avoir là quelque chose de magique. Elle ressent que c'est bien la grâce de Dieu lui-même qui descend sur elle et que Dieu pose sa main bienveillante sur elle. Dans ses paroles d'espérance, eh bien, la bénédiction de Dieu peut pénétrer jusqu'au cœur de l'homme. Il m'est arrivé de voir des personnes pleurer lorsque ces paroles les touchaient, et je sais que cela n'était pas lié à ma façon de les formuler. Quand une parole émeut, donne de l'émotion à quelqu'un, c'est un cadeau pour moi. Cela n'a rien à voir avec le mérite, mais uniquement avec la grâce. Je suis alors moi-même reconnaissant parce que j'ai transmis la grâce divine et que je ne l'ai pas amoindrie par des intentions annexes. Vous comprendrez ce que je veux dire par là, n'est-ce pas? Voyez-vous, deux gestes de bénédiction impliquant la main, tout d'abord, sont fondamentaux dans la tradition chrétienne. L'imposition des mains, c'est cela. La main a toujours joué un rôle important pour les hommes. Elle nous sert à saisir, à accomplir de nombreuses tâches. Nous l'utilisons pour nous toucher, nous exprimons notre amour par des caresses. Mais notre main peut aussi blesser, lorsque nous empoignons quelqu'un jusqu'à le tenir enfermé dans l'image que nous faisons de lui, ou que nous lui refusons par exemple de donner notre main pour lui dire bonjour, alors que nous bénissons avec la main, il importe d'être tout entier dans ce geste de la main et de toucher l'autre avec tendresse et amour, amour agapé. Jésus a béni en imposant les mains. Ce geste a quelque chose de fort. Il exprime le fait que Dieu lui-même pose sa main sur la personne bénie et qu'elle est en sécurité. J'impose les mains sur la tête. Dans la bénédiction, l'Esprit de Dieu afflue. Les mains sont depuis toujours l'organe par lequel nous transmettons l'amour et la puissance de Dieu. En ce qui me concerne, je vis l'imposition des mains comme quelque chose de très personnel et très intime. Je ressens la chaleur de l'autre et parfois la présence du sacré qui afflue. Je peux donc imposer les mains en gardant le silence ou en liant ce geste à la parole. Même si je parle, il est important pour moi de garder le silence quelques instants tout en imposant les mains. Ce qui, voyez-vous, ce qui se passe en l'autre dépasse en quelque sorte les mots. C'est un mystère et le silence est nécessaire pour que le Dieu insaisissable agisse sur l'autre. Lorsque je vais imposer les mains, je me prépare intérieurement. J'essaie d'être totalement présent à ce geste et d'oublier mes propres désirs et intentions afin d'être entièrement disponible à l'Esprit Saint et Salvateur de Dieu. Je ressens ainsi ce geste comme étant saint aussi pour moi. Je me vois comme le canal par lequel l'amour de Dieu afflue en l'autre, sans être pollué par mes propres émotions. L'apôtre Luc évoque dans son évangile une autre façon de bénir utilisée par Jésus. Puis il les amena, est-il dit, jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut ainsi emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en gardant une grande joie dans leur cœur. Saint Luc, chapitre 24, versets 50 à 52. J'ai pris cela dans une version allemande, mais rassurez-vous, c'est pareil chez vous. Dans un premier temps, eh bien, j'élève mes mains et je ressens à travers elles la bénédiction qui afflue sur les fidèles. C'est un geste ancestral dont on retrouve des représentations, on peut dire multimillénaires. Et c'est aussi le geste par lequel j'envoie le matin la bénédiction aux êtres qui me sont chers. L'autre geste consiste à étendre les mains sur les autres. Il ressemble à l'imposition des mains, mais il s'adresse, lui, à tous les fidèles sur qui j'appelle la bénédiction de Dieu. Vous pouvez, vous qui êtes né de nouveau, sauver, faire absolument la même chose. Cela n'est absolument pas réservé uniquement à un certain clergé, pas du tout. L'effet de cette bénédiction sur les apôtres, elle est donnée par l'apôtre Luc. ils se prosternent, puis reviennent à Jérusalem réjouis. Ils ressentent la bénédiction comme quelque chose de saint devant lequel ils ne peuvent que s'agenouiller. Il est donc courant aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées et d'églises, de s'agenouiller pendant la bénédiction. Geste de respect envers Dieu pour ce qu'il fait à notre intention. Les disciples retrouvent dans la joie leur vie ordinaire. La bénédiction suscite en eux la joie, la certitude que leur vie portera des fruits, la confiance qu'ils sont dans la main bienveillante de Dieu qui les porte et qui les protège. Chers amis, dans de nombreuses familles chrétiennes, le bénédicité est encore d'usage aujourd'hui. Il s'agit d'une prière de bénédiction du repas. Autrefois, on expliquait cette bénédiction des aliments par le besoin d'éloigner d'eux les influences démoniaques. Aujourd'hui, certains craignent que des aliments puissent nous nuire à notre santé. La bénédiction, donc, peut les délivrer de cette peur, peut nous délivrer de cette peur. Un missionnaire m'a raconté qu'il lui avait été proposé en Afrique quelque chose d'indéfinissable à manger. Évidemment, on comprend que c'est pas toujours facile. Bien que étant totalement écœuré à la vue du repas, il ne pouvait le refuser par respect pour son hôte. Alors il bénit le plat et il n'eut aucune difficulté à le digérer. La bénédiction exprime le fait que nous recevons les dons de Dieu et qu'ils ne nous nuiront pas, mais que bien au contraire, ils nous fortifieront. La bénédicité a pourtant une portée plus grande. Il signifie tout simplement que Dieu nous offre ses mains et que par eux, il veut nous prouver sa bonté et son amour. Il veut que nous on puisse en quelque sorte savourer ses mains et qu'à travers eux, nous puissions savourer aussi ainsi, indirectement, son amour qu'il a pour nous. Les anciens parlaient de la douceur de Dieu. Dieu se laisse goûter, c'est ce que éprouvaient les anciens. Dans les mains, je goûte quelque chose de l'amour de Dieu. Et cet amour a un goût agréable. Nous louons Dieu pour tout ce qu'il nous accorde. Nous le prions de transformer ces aliments en bénédictions afin qu'il nous fortifie et nous permette d'accomplir toutes nos tâches quotidiennes. Nous le prions donc de bien vouloir bénir aussi toutes les personnes assemblées autour de la table pour que nous puissions éprouver sa présence au milieu de nous comme la présence de celui qui nous ressemble. Pour les anciens, se rassembler autour d'une table avait quelque chose de très sacré. Partager un repas avec quelqu'un, cela signifiait accepter entièrement cette personne. Se rassembler pour un repas commun, c'est éprouver en quelque sorte l'unité des convives. Cette culture du repas c'est aujourd'hui beaucoup perdu. Je connais une famille dans laquelle chacun à son tour est responsable de dire la bénédiction pendant une semaine. Le fils âgé de 18 ans, lui, refuse de prononcer les paroles de la prière. Et lorsque son tour arrive, eh bien tout le monde autour de la table garde simplement le silence pendant quelques instants. Les autres enfants, plus jeunes, prononcent à leur façon une petite prière. Ainsi apprennent-ils, dans le respect de chacun, qu'il ne va pas de soi de partager les dons de Dieu. Lorsque un frère, une sœur, par exemple, doit partir pour une destination lointaine, eh bien nous prions pour placer son voyage sous la bénédiction de Dieu, tout simplement. Que le Seigneur te protège quand tu pars et quand tu reviens, et cela maintenant et pour toujours. Nous entonnons pour le voyageur, la voyageuse, qu'il ne laisse chanceler ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Ouah, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, il est ton ombrage, le Seigneur à ta droite, de jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, et il garde ton âme. Eh bien, voyez-vous, cette bénédiction traduit clairement qu'il ne va pas de soi d'arriver sain et sauf au but, ni de revenir sans aucun dommage à la maison. Il ne s'agit donc pas là seulement de rechercher des protections, mais aussi de faire en sorte que ce que nous avons résolu d'entreprendre puisse réussir. Le voyage n'a pas qu'un but extérieur, il est motivé par une tâche à accomplir ou par une visite à faire. Et pour cela, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Pour notre assemblée, la bénédiction avant un voyage n'est pas une habitude pesante. Bien au contraire, elle exprime pour nous un lien avec le voyageur, celui qui part au loin pour accomplir une tâche, le fait en communauté avec nous. Il ou elle part accompagné de nos vœux de bon voyage, mais aussi de notre prière et de la bénédiction de Dieu. Les fidèles présents dans l'Église au moment de cette bénédiction se montrent la plupart du temps très touchés. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose de spécial entre nous. Le frère, la sœur, elle ne part pas, mais il ou elle s'en va avec notre bénédiction et reste ainsi en lien avec nous par la prière. Autrefois, on bénissait même les champs. C'est authentique. La bénédiction des champs, elle relève d'une tradition ancestrale. Les Romains déjà fêtaient le 25 mars en se rendant en procession dans la nature. La bénédiction des champs, si elle a des origines païennes, ne relève pas pour autant de la magie. En elle, nous exprimons notre conviction que les champs ont besoin de la bénédiction de Dieu pour donner des fruits. Les récoltes ne sont pas exposées uniquement aux aléas du temps, mais aussi aux dangers que représentent les parasites, les insectes, etc. La bénédiction des champs nous fait prendre conscience concrètement de la nature. Nous marchons au travers champs et nous sentons le parfum exalté par la nature. Je voudrais dire le parfum exhalé, évidemment. La spiritualité s'enracine donc dans la terre. Et la bénédiction se fait sensible ainsi. Voyez-vous, en marchant et en méditant, eh bien nous ressentons que tout ce que nous faisons ne peut se passer de la bénédiction de Dieu. Du reste, encore aujourd'hui, il y a des paysans chrétiens qui bénissent même leur bétail. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui a l'air farfelu. Chers amis, la bénédiction du matin, c'est de commencer la journée par une bénédiction. Et ça, c'est très important. En ce qui me concerne, pour bien commencer la journée, il faut que j'étende les mains pour bénir toutes les personnes que le Seigneur me met sur le cœur. Les parents retrouveraient beaucoup de réconfort s'ils voulaient commencer à bénir non seulement leur journée, mais aussi leurs enfants. Ils auraient alors le sentiment que leurs enfants ne font pas le chemin tout seuls, mais qu'ils sont sous la bénédiction de Dieu. Un missionnaire me racontait que chaque matin, il se rendait à l'église à 5h du matin pour prier et pour méditer. Et dès qu'il arrivait et qu'il avait ouvert l'église, un chrétien âgé le rejoignait et il restait assis durant toute une heure en silence. Mais il priait en silence. Or un jour, le missionnaire lui demanda ce qu'il faisait là. Et celui-ci lui répondit, « Voyez-vous, je traverse le village et je m'arrête devant chaque hutte. J'imagine les gens qui les habitent, ce qu'ils font, de quoi ils souffrent, ce dont ils ont besoin et à quoi ils aspirent. Et je les bénis. Et pour cela, il me faut toute une heure. » Et ce vieil homme avait une forte intuition de ce que signifie la bénédiction et il savait rendre féconde sa vieillesse. Évidemment, il ne pouvait plus faire beaucoup de choses, surtout pas des choses lourdes, mais il bénissait les gens de son village. Il était pour tout le village une véritable bénédiction. Nous aussi, nous pouvons, vous et moi, prier que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde une bonne nuit et de bien finir la journée. C'est une chose qui est tout à fait faisable et pas du tout quelque chose d'enfantin, mais de sérieux. La bénédiction du soir, cela exprime le besoin que nous avons de la protection de Dieu également la nuit. Les rêves peuvent nous effrayer parfois, mais à travers eux, Dieu peut aussi nous parler, nous encourager et nous aider à orienter notre vie. Nous demandons ainsi que notre nuit soit bénie et que nous puissions dormir sereinement. Beaucoup de nos contemporains ont des problèmes de sommeil, moi y compris. Ils ne trouvent pas la paix, sont assaillis par l'angoisse et ne cessent de se retourner dans leur lit. Moi, surtout par mon grand âge, c'est un peu autre chose. La nuit aussi a besoin d'une bénédiction afin qu'elle retrouve sa destination première, celle d'un temps de repos et de rêve. Dans cette bénédiction du soir, nous pouvons présenter à Dieu toute notre journée et en dépit des conflits et des déceptions, être confiant dans le fait qu'elle sera vraiment bénie. Nous nous abandonnons ainsi dans les mains bienveillantes de Dieu et nous nous souvenons en même temps que la nuit est une image, parfois on peut dire de la mort, en quelque sorte. Nous ne sommes pas absolument sûrs que nous allons nous réveiller le lendemain matin. Ainsi la nuit nous exhorte-t-elle à nous abandonner en toute confiance à Dieu et à trouver la paix en lui. Chers amis, nous allons terminer cette très courte étude par une prière que je voudrais surtout donner uniquement en quelque sorte en exemple ou pour aider ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, pour leur donner la possibilité de faire leur prière ainsi avec celle que je vais vous donner comme exemple. Seigneur, je t'en supplie, entends ma prière. C'est toi qui me l'as inspirée et confiée. Et cela avant même que je ne crie vers toi. Daigne prêter attention à ma supplication. Tu ne daignes certes pas de me regarder, moi qui me suis égaré. Seigneur, toi qui as pitié et compassion, tu ne m'as certainement pas inspiré cette prière en vain, mais tu ne me l'as donnée et confiée pour qu'elle ne porte des fruits. Tu me l'as inspirée pour que tu puisses m'exaucer. Tu m'as inspiré de demander ton aide pour que tu puisses avoir pitié de moi, pécheur que je suis. Tu m'as déjà donné les prémices de ta miséricorde. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Maintenant, je veux essayer, pour autant que ça fonctionne, de vous transmettre quelques chants de 1962. Que j'ai enregistré sur bande magnétique. En ce temps-là, il n'y avait même pas les cassettes, ni cassettes ni CD. C'était des bandes avec des appareils tels que le Revox, un appareil UR, ou pour les riches, c'était un appareil de Kudelski, je crois que ça s'appelait le Nagra. Eh bien, mes chers amis, c'est pas la même qualité qu'un CD, mais vous pouvez quand même en profiter, car c'était encore quand même des chants, des mélodies, avec des paroles qui avaient un sens, et qui venaient surtout par des chanteurs et des chanteuses qui étaient vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, profondément bénis, de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et qui avait le Saint-Esprit en eux. Voilà, alors je vous donne quelques chants.
An angel breathing a till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow, after the darkness is gone. Till we meet at Jesus.